Bonjour à tous, le débrief débute sur le coup de 16h en ce 24 novembre 2016, 9 degrés à Victoria avec de la pluie intermittente. C'est Alexis Gagnon au micro, merci d'écouter CILS FM 107,9, la radio communautaire francophone la plus à l'ouest en Amérique. En interview aujourd'hui, nous retrouvons Valérie Poulain, coordonnatrice au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, à propos d'une nouvelle simulation parlementaire qui se tiendra au retour des fêtes. Je m'entretiendrai avec Valérie à propos de cette activité jeunesse vers 16h45. On envoie tout de suite les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Rendez-vous dans 4 minutes pour la météo détaillée. Ce sera suivi du Radio-Journal des Nations Unies et des nouvelles provinciales, entre autres informations. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. L'Assemblée des Premières Nations a fait une déclaration suite à la publication cette semaine du rapport sur le logement publié par le gouvernement du Canada. L'association affirme que le rapport comporte plusieurs lacunes importantes liées au manque d'engagement envers les Premières Nations. Selon Perry Bellegarde, chef national de l'APN, le logement est un problème majeur pour les citoyens des Premières Nations et il aurait été dans l'intérêt de ce rapport de présenter des engagements particuliers aux Premières Nations. Il a dit que les citoyens des Premières Nations sont aux prises avec des conditions de vie inadéquates. Nouvelle étude mondiale publiée par l'Institut du travail Kronos et qui révèle que les entreprises canadiennes perdent chaque année 88 milliards de dollars en travail administratif inutile, soit 4 934 dollars par employé. De plus, l'étude nous apprend que la main-d'œuvre canadienne est freinée par la complexité, la faible productivité et la technologie peu performante. Le document souligne que la perte de productivité coûte 1 600 milliards de dollars aux entreprises à travers le monde et notamment 687 milliards uniquement aux États-Unis. Le gouvernement du Canada accorde plus de 7 500 000 dollars pour trois projets qui seront mis en œuvre à Madagascar. L'annonce a été faite par la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeault, de passage dans l'île de l'océan Indien. Il sera question d'améliorer l'éducation, d'aide humanitaire au programme alimentaire mondial pour les personnes touchées par les effets du phénomène El Niño et du renforcement socio-économique des femmes. Le ministère de la Défense nationale publie le rapport de 2016 du médecin général sur la mortalité par suicide dans les forces armées canadiennes et on y apprend que 14 hommes de la force régulière se sont suicidés en 2015. Pendant ce temps, les données de 2010 à 2014 indiquent une hausse du taux brut de suicide comparativement aux années précédentes. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, a dit que la santé et le bien-être des militaires et de leurs familles figurent en tête de liste de ses priorités. Autre rebondissement en politique américaine, alors que l'élection s'est soldée par la victoire de Donald Trump il y a un peu plus de deux semaines, voilà que des informaticiens demandent un recomptage du total des voix dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Le réseau CNN a fait état d'une source ayant connaissance de la demande. Les informaticiens croient avoir trouvé des preuves que les scrutins pourraient avoir été manipulés ou même piratés. Ni le président élu Donald Trump, ni l'ancienne secrétaire Hillary Clinton n'ont fait de déclaration dans ce dossier. Le programme fédéral Can Export annonce avoir approuvé 500 demandes de financement de PME canadiennes depuis le début de l'année. Le programme offre un soutien financier aux PME qui souhaitent accéder à de nouveaux marchés étrangers. Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, a déclaré que le programme fait partie de la stratégie commerciale progressiste du Canada puisqu'il aide des entreprises à réussir sur la scène mondiale. Santé Canada rappelle que la grippe peut toucher n'importe qui, y compris les personnes en bonne santé. Le ministère a précisé au cours des dernières heures que les personnes de plus de 6 mois devraient se faire vacciner contre le virus de la grippe pour protéger leurs proches ainsi que leurs familles. Santé Canada souligne que des campagnes de vaccination ont lieu en tout temps et un peu partout à travers le pays et que la transmission de la grippe s'accompagne d'un risque de complications graves, entre autres pour les jeunes enfants et les personnes de plus de 65 ans. La ministre des Sciences, Kirsty Duncan, fera une annonce cet après-midi à Ottawa. Elle lèvera le voile sur un investissement pour le perfectionnement des technologies médicales de pointe avantageuses pour la santé des Canadiens. Le ministère a qualifié l'annonce d'importante. Kirsty Duncan tiendra un point de presse après le dévoilement Des membres de l'institution médicale pourraient assister à l'annonce. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Calgary 2-0 contre Columbus. Le New Jersey a vaincu Toronto 5-4 en tir de barrage. Edmonton 6, le Colorado 3. Vancouver a vaincu l'Arizona 4-1. Et victoire du Minnesota 3-1 contre Winnipeg. Ce soir, Boston sera à Ottawa et la Caroline à Montréal. NFL, eh bien, 3 matchs à l'affiche aujourd'hui en cette journée de l'action de grâce aux États-Unis. Le Minnesota sera à Détroit, Washington à Dallas et Indianapolis recevra Pittsburgh. Et dans la NBA hier, victoire de Toronto 115-102 contre Houston.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans Le Débrief en ce jeudi 24 novembre. Il est 16h05 et des poussières. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Il y a beaucoup de pluie actuellement sur le sud de l'île de Vancouver. Sur Victoria, il pleut actuellement. On a 9 degrés au mercure au centre-ville. Et pour les prochaines heures, ça se poursuit dans un scénario similaire. Ça va descendre jusqu'à 5 degrés en fin de soirée et en cours de nuit. Les chances, les probabilités d'averse resteront assez élevées à 70%. Pour demain, 25 novembre, 9 degrés avec 70% toujours de probabilité d'averse. Ça reste inchangé pour la journée de samedi 26 novembre et pour la journée du dimanche 27 novembre. Le mercure oscillera entre 8 et 9 degrés durant le jour. La probabilité d'averse demeurera à 70% samedi et redescendra à 30% dans la journée de dimanche. Environnement Canada prévoit une éclaircie le lundi 28 novembre avec un maximum de 10 degrés. Nous allons à présent entendre le bulletin quotidien des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec à la une l'examen de la situation en République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité. L'ONU qui salue aussi l'engagement d'un groupe rebelle soudanais à ne plus recourir à des enfants soldats. Et puis à la veille de sa clôture, nous reviendrons sur le forum de Dubaï avec un accent particulier sur les contributions majeures des applications et des technologies spatiales. Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation dans la région des Grands Lacs à la lumière de la visite effectuée par ses membres du 11 au 14 novembre en RDC puis en Angola. S'agissant de la République démocratique du Congo, le représentant permanent de la France, François Delattre, qui a dirigé cette partie de la mission, a indiqué que le Conseil tend à Kinshasa qu'au Nord Kivu à réaffirmer la possibilité pour la RDC de procéder, pour la première fois de son histoire, à une transition pacifique du pouvoir à l'issue du mandat du président Kabila, mais aussi la possibilité de tenir des élections libres, justes, crédibles, ouvertes, transparentes et pacifiques, conformément à la constitution congolaise. François Delattre.
Tous les interlocuteurs du Conseil ont fait part de leur souhait d'éviter un nouvel épisode de violence après les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016. Ils nous ont assuré de leur disponibilité à poursuivre les discussions après l'accord du 18 octobre dans un cadre plus large et plus inclusif pour aboutir à une feuille de route claire et précise fondée sur un consensus large permettant de définir un schéma de transition et un calendrier électoral précis. Le Conseil de sécurité a clairement encouragé l'ensemble des acteurs à poursuivre ces discussions pour que le processus électoral puisse se tenir dans un climat pacifique et dans un esprit de consensus qui rassemble l'ensemble des forces politiques congolaises. Le Conseil a aussi encouragé les partis à prendre les mesures de confiance qui s'imposent, telles que la levée des poursuites judiciaires à des fins politiques, la libération des prisonniers politiques, un engagement clair de tous à respecter la Constitution et l'ouverture de l'espace politique afin de permettre à ces discussions de se tenir dans des conditions sereines et d'aboutir rapidement.
Afrique, toujours, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés a salué mercredi l'engagement d'un groupe armé rebelle soudanais à ne plus recruter d'enfants. Ce plan d'action a été signé à Genève en présence de Leïla Zeroughi et de Malik Agar, le chef de la branche nord du Mouvement populaire de libération du Soudan, le SPLM Nord. D'après l'adoption de ce document, les Nations Unies s'attendent à ce que ce groupe rebelle mette fin au recrutement d'enfants soldats dans les rangs donc du SPLM Nord au Soudan. Leïla Zeroughi.
c'est le terrain qui va nous prouver si on a affaire à des parties qui sont sérieuses, qui ont l'intention de respecter leur engagement, de le mettre en œuvre, ou si on a affaire à des gens qui juste signent un papier. Je pense que dans le cas que nous avons, je le vois aujourd'hui avec le gouvernement, on a commencé, ils ont signé, c'était les derniers à signer, mais ils sont sérieusement engagés, ils ont mis en place les mécanismes. Nous avons aujourd'hui une communication directe avec l'équipe high level et technical level pour la mise en œuvre du plan d'action. Je pense que le SPLM North, j'ai eu l'impression en tout cas qu'ils sont sérieux pour aller de l'avant. Donc pour moi, ça dépend après si les partis s'engagent, si les partis mettent en œuvre leur engagement, on peut y arriver.
Direction Dubaï et le Forum sur l'espace comme moteur du développement socio-économique durable pour confirmer les nombreuses applications des technologies spatiales, y compris pour la reconstruction d'un des sites patrimoniaux les plus emblématiques du monde, celui de Tombouctou au nord du Mali. Bertrand Fraud est spécialiste de la gestion de l'information au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Il explique pourquoi une carte satellite en dit plus long qu'un long rapport.
Les technologies spatiales sont fantastiques et elles sont très mûres. On peut les utiliser relativement facilement. On les utilise de deux manières. D'abord pour les communications. Pas mal de nos bureaux, surtout dans des situations difficiles ou dans des lieux isolés, utilisent des communications par satellite. On a aussi des programmes pour équiper des zones isolées ou des populations qui sont en train de migrer avec des liaisons par satellite, surtout des liaisons Internet. Deuxième type de technologie qu'on utilise, c'est les images. Donc toutes les images qui viennent de satellites sont utilisables et analysables, et donc on met ces images sur des cartes, et derrière on peut suivre comment nos projets se déroulent. Donc par exemple, on suit la reconstruction des infrastructures publiques à Tombouctou, et donc on a pris des photos de 2012, de 2013, de 2014, etc. jusqu'à aujourd'hui, et on suit les infrastructures qui ont été détruites pendant la guerre en 2013, donc celles qui ont été détruites, la reconstruction, donc comment on a utilisé l'argent de nos donateurs pour reconstruire ces infrastructures.
Enfin, en 2015, l'on a assisté avec 2,9 millions de dépôts à une hausse record du nombre de demandes de brevets dans le monde, grâce surtout à la forte activité donc de dépôts en Chine. C'est ce qu'indique mercredi l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle basée à Genève, dans un nouveau rapport. Les explications de Francis Gurry, le directeur général de l'OMPI.
Comme on sait, la Chine est en train d'essayer de transformer son économie, de quitter les domaines où le main-d'œuvre est très très important et de se concentrer sur la valeur ajoutée. Et cela est reflété dans le nombre de demandes qu'il présente pour la propriété intellectuelle, parce que c'est ça la valeur ajoutée. On voit que les taux de croissance en Chine sont toujours aux alentours de 7% sur la base d'une économie de 10 milliards de dollars qui est absolument exceptionnelle toujours, même si c'est de plus en plus difficile à maintenir ce taux de croissance.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et l'avant-dernier jour des travaux à Dubaï du premier forum de haut niveau sur l'espace dont l'objectif est d'examiner le rôle de ce secteur comme moteur du développement durable socio-économique. Sur place, Luc Saint-Pierre, chef de la section des applications spatiales de l'UNOSA, le bureau des affaires spatiales de l'ONU, a accepté de faire le point sur les enjeux de cette question.
UNOSA est la seule agence mandatée des Nations Unies pour promouvoir la science, les technologies et les applications spatiales, principalement pour supporter le développement durable des États membres des Nations Unies. Nous avons différents programmes qui visent à promouvoir les outils, qui visent à développer les capacités, principalement des États en développement, à découvrir les données, à utiliser les données, par exemple comme les images satellitaires, dans le but de mieux connaître, de cartographier quelles sont leurs conditions actuelles, par exemple au niveau de l'environnement, quels sont les risques d'inondation, les risques de sécheresse, les populations qui sont vulnérables à des tsunamis, à des inondations, de manière à mieux se préparer pour réduire ces risques, mais aussi mieux préparer une réponse dans le cas de désastre. Mais ça peut aussi s'appliquer pour mieux définir des mesures d'adaptation au changement climatique, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'application de cet outil dans les pays francophones, notamment?
Si on regarde, par exemple, en Afrique francophone, où il y a un ensemble de risques, parfois au même moment. C'est bien sûr une région où les connaissances, les capacités techniques nécessitent le plus d'appui, le plus de développement. Nous travaillons présentement avec quelques pays, principalement en Afrique de l'Ouest francophone, pour augmenter leur accès à de l'information, à de l'imagerie satellitaire et aussi à avoir les capacités techniques pour les interpréter, pour produire les cartes, pour produire l'information qui est nécessaire aux preneurs de décision. Nous avons commencé dernièrement à travailler au Gabon, qui peut aussi jouer un rôle de facilitateur dans la région, parce qu'ils ont accès, via des systèmes de réception, ils ont accès à l'imagerie pour un grand nombre de pays dans la région. C'est vraiment développer les capacités, développer l'organisation interne d'un gouvernement, de manière à faciliter l'échange d'informations de manière gratuite et ouverte, transparente, de mobiliser les ressources de différentes sources afin d'avoir peut-être plus de ressources pour la formation, pour l'achat de matériel, pour l'achat de données, parce qu'il faut aussi planifier pour ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'importance de ce forum ici à Dubaï et aussi du rôle du secteur spatial comme élément moteur du développement socio-économique?
Avec le gouvernement de UAE ici à Dubaï et son agence spatiale, UNOUSA organise le premier d'une série de 3 forums de haut niveau. On espère, à partir de ce forum et des suivants jusqu'à 2018, redéfinir quels sont les besoins des nations, quels sont les outils les plus adaptés, les plus utiles provenant de la technologie spatiale, de manière à mieux les supporter vers l'atteinte de leurs objectifs, par exemple du développement durable, leurs objectifs pour réduire la vulnérabilité aux désastres, comment les équiper de manière à utiliser l'information pour être mieux informés, prendre de meilleures décisions. Les technologies spatiales sont essentielles pour le développement durable des nations parce qu'elles permettent d'acquérir des informations quantifiées, des descriptions de variables importantes pour, par exemple, réduire la vulnérabilité aux désastres, pour planifier ces mesures d'adaptation au changement climatique, pour mieux gérer les changements environnementaux et les risques que l'environnement peut avoir, permet donc de mieux cartographier ces facteurs et aussi mesurer l'évolution, l'impact, le progrès des actions qui sont prises de manière à voir si réellement on peut atteindre ces objectifs de développement durable.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Alexis Gagnon au micro. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Il est 16h17. Merci d'être à l'écoute en rediffusion également dans la matinée du 25 novembre. On passe aux nouvelles provinciales et je reviens d'emblée sur un fait divers qui a ouvert le bulletin provincial hier. Sophie Savard aurait été repérée à Vancouver. Sophie Savard, la jeune Québécoise disparue à Vancouver depuis une semaine, aurait été vue au centre-ville de la métropole britanno-colombienne par un internaute qui l'a même prise en photo. C'est dans le Journal de Montréal, le même journaliste qui signalait la disparition, Nicolas Saillant. Activement recherchée depuis une semaine, la jeune femme de Québec aurait été finalement repérée par un voyageur québécois au centre-ville de Vancouver. Ce voyageur a ensuite communiqué avec la mère de Sophie, Maryse Barrio, via Facebook. Selon la mère, donc Maryse Barrio, la jeune Sophie Savard aurait été vue dans le secteur de Granville Street au centre-ville de Vancouver. Maryse Barrio est donc heureuse de savoir que sa fille est en vie, mais demeure inquiète en raison de l'état de santé qui semble précaire. Elle est confuse, dit-elle, c'est inquiétant, on ne sait pas ce qui se passe. Elle disait qu'elle avait hâte de revenir au Québec, a-t-elle confié aux journalistes du Journal de Montréal. Afin de ramener Sophie à bon port, son père ainsi que son parrain vont se rendre à Vancouver dans les prochaines heures pour la retrouver. La jeune femme de 19 ans avait été vue pour la dernière fois jeudi dernier après avoir parlé à sa mère au téléphone pour lui indiquer qu'elle prenait l'autobus lundi en début de semaine afin de revenir au Québec. Sophie a indiqué à des amis qu'elle partait prendre une marche dans Vancouver mais n'est jamais revenue. Donc voilà pour la suite quelque peu rassurante tout de même de cette disparition, à propos de cette disparition de la jeune Sophie Savard. Et vous devinez comme moi que cette nouvelle est sans doute, on ne peut pas le certifier bien sûr, est sans doute liée à la crise des opioïdes qui sévit sévèrement en région vancouveroise. Et justement à propos de cette crise des surdoses, qui sévit. La GRC coordonne la lutte contre le trafic de fentanyl avec la Chine. C'est dans la presse canadienne en date d'aujourd'hui. La Gendarmerie royale du Canada dit être parvenue à une entente avec les autorités chinoises afin de contenir le flux de l'opioïde fentanyl en provenance du pays asiatique. Le commissaire Bob Paulson et le vice-ministre chinois de la Sécurité publique se sont entendus pour renforcer la coopération des deux pays contre les exportations de fentanyl, a indiqué la GRC jeudi dans un communiqué. Bob Paulson y déclare que de tels opioïdes représentent une sérieuse menace à la sécurité des collectivités canadiennes. Il ajoute que sa rencontre avec Chen Zimin a posé un jalon important dans l'élaboration d'une approche coordonnée pour contrer le trafic de ces analgésiques synthétiques. Des discussions sur d'éventuelles enquêtes communes doivent par ailleurs s'amorcer la semaine prochaine. La semaine dernière, la première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, avait exhorté Ottawa à endiguer les importations de fentanyl chinois, alors que son gouvernement a déclaré une urgence de santé publique à ce sujet au printemps dernier. Donc voilà un sujet de santé publique qui est crucial en ce moment en Colombie-Britannique, alors que le nombre des décès a dépassé la marque des 600 au début du mois. Sinon, je vous parle de ce projet, je vous parle du secteur énergétique maintenant, le secteur de l'énergie. Projet de pipeline d'Enbridge, deux annonces sont imminentes, rapporte Radio-Canada sur son portail britanno-colombien. Plus de 10 ans après la naissance du projet Ottawa doit se prononcer de façon imminente sur le pipeline Northern Gateway de la pétrolière albertaine Enbridge. Le gouvernement doit aussi annoncer sa décision sur un autre projet d'Enbridge, le remplacement de la ligne 3, évalué à 7,5 milliards de dollars. C'est sous la plume de Francis Plourde dans le portail de Radio-Canada. Il écrit « L'annonce attendue d'ici vendredi 25 novembre pourrait signer la mort de ce projet controversé, donc le projet Enbridge Northern Gateway, qui avait été approuvé en 2014 par l'Office national de l'énergie, moyennant 209 conditions. La Cour d'appel fédérale avait renversé l'approbation du fédéral en juin dernier, puisque selon elle, Ottawa n'avait pas suffisamment fait de consultation auprès des Premières Nations. Et plus tôt cet automne, le fédéral et Enbridge ont annoncé ne pas vouloir en appeler de cette décision de la Cour d'appel fédérale. Donc, trois options, indique Francis Plourde dans cet article, s'offrent maintenant au gouvernement Trudeau. Numéro 1, lancer de nouvelles consultations avec les Autochtones, prendre en compte les témoignages déjà recueillis pour revoir sa position, ou encore, numéro 3, tout simplement laisser tomber le projet qui prévoit la construction de plus de 1000 km de conduite entre le nord-est d'Edmonton en Alberta et le port de Kitimat en Colombie-Britannique pour fin d'exportation vers l'Asie. Sinon, je vous signale un autre article paru cette fois concernant l'enseignement supérieur au Canada. C'est dans le journal Métro du côté de Montréal. On nous signale que le plus récent palmarès des établissements canadiens d'enseignement supérieur selon l'employabilité des diplômés a été dressé par le magazine britannique Times Higher Education. Donc le dévoilement vient d'avoir lieu cette semaine et c'est l'Université de Toronto qui arrive en tête de ce palmarès, suivi par l'Université McGill, l'Université de Colombie-Britannique, UBC, et l'Université de Waterloo sont ex aequo au troisième rang. Donc, de ce palmarès des universités favorites des employeurs, vous trouverez ça dans le journal Métro. En date d'aujourd'hui, 24 novembre. Sinon, sur le blog de Greenpeace, une nouvelle que j'ai aperçue pour vous. Greenpeace, bien que l'année ne soit pas encore terminée, nous propose une compilation des victoires de l'année 2016 en matière de protection des forêts. Et on a la belle surprise de retrouver la Colombie-Britannique dans cette liste des victoires, puisqu'il y a a parfois des bonnes nouvelles en matière environnementale, n'est-ce pas? Alors, je vous lis quelques lignes de ce blog signé Greenpeace. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit la taille d'un terrain de football à toutes les 2 secondes. L'Organisation des Nations Unies estime que près de la moitié des forêts primaires de la planète ont été détruites au cours du 20e siècle. En 2016, vous avez été des millions dans le monde à soutenir les actions de Greenpeace pour protéger les forêts, avec des résultats à la clé. Nous vous rappelons ici les progrès que nous avons pu réaliser tout au long de l'année grâce à vous. Et donc, dans ce top 10, en deuxième place, une bonne nouvelle qui provient de Colombie-Britannique. Greenpeace signale la protection qui a été conférée à la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique. La province s'est en effet engagée à sanctuariser 85% de cette forêt, les 15% restants étant soumis à une réglementation stricte. Donc, c'est considéré comme une victoire par Greenpeace. Et il y a de nombreux autres faits saillants, donc autant de victoires qu'on peut célébrer à juste titre pour cette année 2016. Vous trouverez ça sur le blog francophone de Greenpeace. Autrement, le portail de CBC nous signale aujourd'hui que 2 avions de ligne se sont touchés, les ailes se sont heurtées sur le tarmac de l'aéroport de Vancouver aujourd'hui, et conséquence, les 2 avions ont dû être rangés, parqués, car des dommages ont été constatés aux ailes suite à cet incident mineur. Aucun blessé, bien sûr. Autrement, toujours sur le portail de CBC, on nous signale le 100e anniversaire du suffrage des femmes en Colombie-Britannique. Donc, il y a 100 ans, les femmes ont obtenu le droit de vote dans la province. Il y a un bémol important. Cet anniversaire ne peut être célébré complètement avec puisque le suffrage n'était pas complet. En effet, les femmes des Premières Nations n'ont pas eu le droit de vote avant les années 60, et pareil pour les femmes d'origine asiatique. Donc seules les femmes blanches ont obtenu le droit de vote il y a 100 ans. Donc c'est quand même un anniversaire important, c'est un jalon, disons-le, et ça a mené éventuellement au suffrage universel, véritablement universel, tant pour les hommes que pour les femmes, sans égard aux origines. Alors, on fait une petite pause musicale, si vous le voulez bien. C'est tout pour le bloc provincial en ce 24 novembre. Je vous propose d'entendre une pièce qui a la cote ici au débrief depuis quelques jours. Une pièce de Sarah Dufour qui déménage. Ça s'intitule « Chez nous, c'est Skidou ». On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour.
Il a sorti son scandic pour aller faire un tour. Un vieux 88, un coup de crinque pis c'est tout. Oh, y'a un truc qui gagne. S'en vient de prendre au chalet. Mon oncle Gérard vient de coller une tournée des relais. C'est loin de mon maître, c'est
Sarah Dufour dans le débrief à 16h29. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion. On a 9 degrés actuellement au centre-ville de Victoria et on attaque le bloc des nouvelles du jour. L'ex-ministre conservateur Chuck Strahl démissionne de la Fondation Trudeau. C'est dans la presse canadienne. La controverse entourant les activités de financement du Parti libéral du Canada, donc le parti du Premier ministre Justin Trudeau, a pris une nouvelle tournure aujourd'hui, jeudi. L'ex-ministre conservateur Chuck Strahl, qui siégeait au sein du comité de gouvernance de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, a démissionné. La fondation a obtenu en juin un généreux don d'un haut responsable chinois qui avait versé un mois plus tôt au Parti libéral du Canada la somme de 1 500 $, le maximum permis par la loi, pour dîner en compagnie du Premier ministre Justin Trudeau dans une résidence privée de Toronto. Donc, on comprend que les liens entre la Fondation Trudeau et le Parti libéral du Canada sont critiqués ici suite à cette découverte. Selon le quotidien The Globe and Mail, poursuit la presse canadienne dans cet article, Chuck Strahl écrit dans sa lettre de démission à la Fondation qu'il ne permettra pas aux libéraux de se servir de son nom pour cautionner leurs activités de financement politique. Il a été impossible, rapporte la presse canadienne, de joindre l'ex-ministre conservateur pour obtenir ses commentaires. Depuis quelques jours, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que l'opposition à Ottawa accuse les députés libéraux d'organiser des événements bénéfices qui assurent aux participants un accès direct à des ministres, moyennant contribution au Parti libéral du Canada. L'opposition cite notamment ce dîner privé avec le Premier ministre en mai à Toronto, pour lequel des représentants chinois ont versé 1 500 $ au Parti libéral. L'un des convives de ce dîner a plus tard versé 1 000 000 $ à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, mais les libéraux soutiennent qu'il n'y a aucun lien entre le parti et cette généreuse contribution à la Fondation Trudeau. Et plus loin, dans une autre dépêche de la presse canadienne, Justin Trudeau assure qu'il a rompu tous ses liens avec la Fondation lors de son élection. Donc, il n'entretient plus, dit-il, de rapport avec la Fondation Pierre-Elliott Trudeau depuis son arrivée au pouvoir. On reparle de cette situation, de ce dossier dans la revue de presse des éditoriaux dans quelques minutes. Restez à l'écoute. En attendant, je vous signale un article paru dans Le Monde. Ça concerne le climat. La COP22 vient de se terminer et justement, comme pour la placer encore au cœur de l'actualité. On apprend qu'en Arctique, la température excède actuellement de 20 degrés la normale. Donc, c'est 20 degrés plus chaud en Arctique actuellement au pôle Nord que la normale. Le pôle Nord connaît une vague de chaleur exceptionnelle, tandis que l'étendue de la banquise se trouve à un minimum historique pour cette période de l'année. C'est rapporté dans Le Monde et plusieurs autres médias. Je vous lis quelques lignes de ce papier paru dans Le Monde. Le climat a-t-il perdu le Nord au-delà du cercle arctique? Dans la pénombre de la nuit polaire, deux inquiétants records sont en train d'être battus, celui des températures et celui du minimum d'extension de la glace de mer à cette époque de l'année, une situation inédite dont l'ampleur interroge les climatologues. Les relevés de l'Institut météorologique danois montrent qu'en novembre, les températures journalières de l'air en Arctique ont excédé de 15 à 20 degrés la moyenne de la période 1958-2012. Des niveaux de moins 5 degrés ont ainsi été mesurés au lieu des moins 25 habituels en cette saison. Les dernières 5 années, à la même époque, le thermomètre s'écartait déjà de la courbe de la période de référence, mais avec un différentiel beaucoup moins important de quelques degrés seulement. Alors là, en 2016, c'est vraiment un écart très important et ça interroge les climatologues, comme l'écrit le journal Le Monde dans cet article. On avait déjà eu des signaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était à Noël l'an dernier ou peut-être au Nouvel An, c'était durant la période des fêtes en tout cas, il avait fait plus 1 degré au pôle Nord à Noël. Alors, effectivement, gros point d'interrogation. C'est peut-être... On dit souvent dans les articles concernant le climat que c'est au pôle Nord que le réchauffement se manifeste le plus, avec le plus d'acuité. Donc voilà, on en a encore une illustration avec ces nouvelles mesures qui sont au-dessus des normales saisonnières. Je poursuis ce bloc nouvelle du jour pour vous mentionner que Idola Saint-Jean est toujours en lice pour figurer sur un billet de banque canadien. C'est rapporté par la presse canadienne. La féministe et suffragette québécoise Idola Saint-Jean est toujours de la course pour figurer sur l'un des nouveaux billets de banque canadiens qui seront émis en 2018. La liste restreinte, ils sont passés à une courte liste et on va connaître la femme canadienne qui sera finalement sur le billet de banque le 8 décembre. Mais en attendant, la courte liste inclut donc la suffragette Idola Saint-Jean, dont je vous signalais à l'instant, mais aussi Viola Desmond, qui a lutté contre le racisme en Nouvelle-Écosse, Pauline Johnson, une poète Mohawk, Elsie McGill, première canadienne titulaire d'un baccalauréat en génie électrique, ainsi que Bobby Rosenfeld, une médaillée d'or, une médaillée olympique, pardon, en athlétisme aux Jeux olympiques de 1928. Donc, la Canadienne qui sera sur le billet de banque sera annoncée le 8 décembre par le ministre des Finances, Bill Morneau. Autrement, rapidement, quelques manchettes. En Colombie, le gouvernement et les FARC ont signé un nouvel accord de paix. C'est dans l'agence France-Presse. La Colombie a signé jeudi avec les FARC un accord de paix visant à clore plus d'un demi-siècle de conflits armés. Donc, un accord de paix qui a été révisé après l'échec du référendum du mois dernier. Et donc, un accord de paix qui devrait être ratifié, indique l'agence France-Presse, par le Congrès, n'en déplaise à l'opposition de Colombie. Donc, autrement, si on reste en Amérique centrale et Amérique du Sud, un puissant séisme a été observé aujourd'hui. Un ouragan venait justement de passer dans la région. Donc, je vous lis le titre aussi dans le fil de l'agence France-Presse. L'Amérique centrale frappée par un ouragan, puis par un séisme puissant. Presque à la même heure, jeudi, un ouragan avec des vents de 175 km/h et plus, ainsi qu'un séisme de magnitude 7 ont frappé les deux flancs de l'Amérique centrale, obligeant plusieurs pays à se déclarer en état d'urgence et à émettre une alerte au tsunami. Voilà. Alors, on fait une petite pause. On referme le bloc des nouvelles du jour. Je vous propose d'entendre une pièce de Bernard Adamus qui s'intitule « La question à 100 piastres ». On se retrouve dans quelques instants pour explorer les éditos du jour.
Tranquille, ils se mettent à soir. Tu claudes à tank du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire. T'es fouéré d'un saut fond, sac comme des vieilles sacoches. Tu claudes en arrière, viens pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Tu claudes à poigne le téléphone, puis à la belle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va te long cette année, j'suis cassé, ben raide. J'cherche tout bas du côté du mousse qui est un peu de blé. Image des pote de pain blanc qui fume de la feuille. Il cherche une guêpe de fin de mois. Arrondir, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fête? C'est la tempête qui arrive que les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche des 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi manger, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un disco sur le dos. On s'entend tous pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va te lancer cette année, il est cassé, ben raide. Il cherche tout bas du côté, cette mousse qui est un peu de blé. J'sais pas faire grand chose, à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. Une saison slush de bouette, de ganou pis de fret. Une charge et ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Sa linge rap aujourd'hui, j'ai cœur et chanter comme hier. C'est que t'aimes de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison va-tu être là demain? J'suis à quatre pattes de la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage?
Bernard Adamus dans le débrief à 16h40. On a 9 degrés au centre-ville de Victoria avec des pluies intermittentes, des averses intermittentes qui vont se poursuivre en cours de soirée. On va passer à travers la revue de presse des éditoriaux. Je vais essayer de vous signaler le plus grand nombre de textes d'opinion possibles. On va commencer avec un édito signé Alec Castonguet dans le journal L'Actualité. C'est un hebdo québécois. Alec Castonguet revient sur le financement du Parti libéral du Canada. Le titre de cet édito, don et accès privilégié, l'éthique élastique de Justin Trudeau. Le Parti libéral du Canada a reçu des centaines de milliers de dollars de dons en échange d'un accès privilégié au ministre du gouvernement Trudeau et à son chef. Il est temps d'y mettre fin, écrit-il, et de réformer le financement des partis à Ottawa. Le Parti libéral du Canada a reçu des centaines de milliers de dollars de dons en échange d'accès privilégié. Et ça ne semble pas émouvoir Justin Trudeau, écrit Alec Castonguet dans cet article, qui s'adonne lui-même à cette pratique et ce, même si cela enfreint les règles qu'il a édictées à son arrivée au pouvoir l'an dernier. Les exemples sont suffisamment nombreux pour parler d'un modus operandi, un pattern, comme on dit en anglais, qui écorche l'éthique du gouvernement Trudeau. Voici l'opération. Un ministre ou le premier ministre se rend dans une soirée de financement, souvent dans une résidence privée, où les invités, peu nombreux, ont accès à l'élu en échange d'un don au parti. Parfois, ce club select inclut des lobbyistes enregistrés qui tentent d'influencer le gouvernement. Coût du billet, 1 500 $, la limite permise par la loi. Donc, l'édito se poursuit sur quelques autres paragraphes. C'est très intéressant si vous voulez approfondir. Donc, c'est dans l'hebdo, l'actualité, sous la plume d'Alec Castonguet. Et ce type de financement, bien sûr, rappelle notre financement politique de Colombie-Britannique, puisque notre première ministre ici en Colombie-Britannique, Christy Clark, pratique ce même type de financement. Elle se rend dans des dîners et c'est argent contre accès et bien sûr faveur à la clé. On s'en doute, bien que la première ministre s'en défende. Et ce qu'il y a de particulier en Colombie-Britannique, c'est qu'il n'y a pas de limite. On vient de lire la limite au fédéral, 1 500 $ pour le coût d'entrée à ce dîner. Mais en Colombie-Britannique, il n'y a pas de limite. On peut verser 1 000 000 $ si on veut lors d'un souper de financement du Parti libéral de la province. Donc c'est très inquiétant. C'est un sujet qui demeure dans l'actualité. Plusieurs opposants, plusieurs membres de l'opposition ici en Colombie-Britannique se sont opposés à ce type de financement. Et on va sûrement en reparler, surtout que la campagne électorale de la province va se mettre en branle Très bientôt, l'élection aura lieu au printemps. Donc, on y reviendra. Autrement, très rapidement, je veux vous signaler une interview très très sympathique de l'homme de lettres Dany Laferrière dans le journal Métro. Et Dany Laferrière est à Madagascar actuellement, dans la capitale Antananarivo, où se déroule, vous le savez sans doute, le 16e sommet de la francophonie. Donc le sommet est en cours actuellement et ça va culminer avec la plénière ce week-end. L'écrivain Dany Laferrière, qui est le premier Canadien à se voir élu à l'Académie française, c'est un ambassadeur de la francophonie, donc il est à Madagascar ces jours-ci pour participer au sommet de la francophonie, le 16e sommet de la francophonie organisé par l'OIF. Et il y a une belle interview, je vous le disais, dans le journal Métro. Le titre, la francophonie selon Dany Laferrière. Sinon, rapidement, dans l'hebdo web Bastamag, un article sur les banques à l'échelle mondiale qui sont derrière le projet d'oléoduc Dakota Access que combattent si courageusement les tribus Sioux aux États-Unis. Dans le North Dakota. Donc Bastamag vous donne le topo, vous donne toute l'info sur les banques qui soutiennent ce projet mal avisé d'oléoduc sur les territoires ancestraux Sioux, un projet qui met en péril également les réserves d'eau de ces régions. Alors c'est dans l'hebdo web Bastamag. Et je vais être obligé de passer rapidement sur les autres éditos. Dans le portail Mediapart, il y a un article très intéressant sur les libertés publiques en Russie. Ces libertés, vous vous en doutez, sont en recul permanent en raison de la poigne qu'exerce le gouvernement de Vladimir Poutine. C'est une répression chronique de la société civile et ça se traduit bien sûr par des libertés publiques en recul dans la presse également. Donc un super article. En Russie, la loi sur les agents de l'étranger muselle la société civile. C'est le titre de cet article d'Agathe Duparc dans Mediapart. Et un tout dernier édito à vous signaler, la correspondante du journal Le Devoir à Ottawa, Manon Cornelier, intitule son papier aujourd'hui « Une loi nécessaire ». Elle parle de la surveillance qu'exercent les corps policiers au Canada sur les journalistes et leurs sources. « Il faut une loi au plus vite », écrit-elle en substance. Donc, je vous rappelle le titre de son article paru aujourd'hui dans Le Devoir, « Une loi nécessaire ». On va se rendre à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais en ouverture d'émission, on parle de simulation parlementaire. On retrouve Valérie Poulain, qui est coordonnatrice au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Avec elle, on avait parlé plus tôt ce mois-ci du PFCNO. C'est d'un nouveau parlement jeunesse qu'on parle cette fois, un parlement qui se tiendra au retour des fêtes. On écoute ça dans quelques instants. Nous sommes de retour dans l'émission Le Débrief. En fin de journée, l'émission n'est pas terminée. On passe au créneau de l'interview. Si vous avez suivi Le Débrief ce mois-ci, vous savez que le PFCNO nous a rendu visite ici même à Victoria plus tôt ce mois-ci. Le PFCNO, c'est le Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest. C'est une simulation parlementaire qui réunit des jeunes de l'Ouest canadien. Nous avions parlé à Valérie Poulain, qui en est la coordonnatrice. On retrouve aujourd'hui Valérie au bout du fil, qui nous parle d'une seconde simulation parlementaire qui se tiendra en janvier. Ça s'en vient à grands pas. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, on a eu le PFCNO ce mois-ci, c'est encore tout frais. Est-ce que, avant de parler de cette autre simulation parlementaire qui s'en vient au retour des fêtes, on peut dresser un petit bilan du PFCNO qui vient de se clore ici même à Victoria?
Ben oui, ben en fait, ça a super bien été. Donc, c'est tout frais encore. Hein. On vient de revenir du PFCNO.
Oui.
On a accueilli une cinquantaine de jeunes, donc du Nord et de l'Ouest. On a vu des sourires pendant toute la fin de semaine. Des débats assez riches aussi en contenu. Vraiment une belle équipe de A à Z. Ça a très bien été. Puis on a aussi découvert la ville. Donc on a fait un rallye photo dans la ville qui était notre activité surprise. Puis les jeunes ont réussi à voir davantage la Colombie-Britannique, à avoir déjà un premier goût en tout cas de la belle ville de Victoria. Donc on est tous très satisfaits de l'événement.
D'accord. Et puis, on a eu le plaisir d'accueillir Mathilde Claude, qui est une des jeunes résidentes de Victoria qui participait à cette édition 2016 du PFCNO à Victoria. Alors, les auditeurs sont quand même assez au courant. On va passer tout de suite au prochain Parlement, à cette prochaine simulation qui se tient en janvier. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu les infos vitales de cette prochaine activité?
Oui, donc c'est le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, donc le PJFCB. C'est donc un événement qui est annuel. C'est encore une fois une simulation parlementaire par et pour les jeunes, mais cette fois-ci, c'est à plus grande échelle. Donc, on a environ 115 jeunes qui vont venir de partout en Colombie-Britannique. Et c'est des jeunes âgés de 14 à 25 ans. Donc, la tranche d'âge est plus grande.
Oui.
Souvent, c'est des jeunes aussi qui ont eu soit une première expérience parlementaire ou encore pas du tout. C'est vraiment leur première expérience avec nous. C'est ça. Nous, pour le PJFCB, on a des volets aussi. Donc, oui, il va y avoir encore une fois des ministres, encore une fois des députés. Il va y avoir des débats en chambre,
oui.
Qui s'y perdent. Mais on a aussi trois autres volets. Donc, on a le volet média, qui est vraiment animé par une journaliste. Donc, c'est un groupe d'une quinzaine de jeunes. Donc, c'est plus petit. Pendant la fin de semaine, ils vont avoir une formation, puis ils vont pouvoir mettre aussi en pratique ce qu'ils ont appris, pouvoir passer nos politiciens en entrevue.
Ah oui.
Que ce soit oui, exactement. Donc, que ce soit en entrevue radio, côté journalistique aussi, qu'ils puissent écrire des articles. Donc, c'est intéressant parce qu'on va chercher aussi des jeunes qui ont un intérêt vers les médias, même si c'est un parlement, une simulation parlementaire. Puis, on a aussi le volet action citoyenne. Même chose, c'est un petit groupe d'une quinzaine de jeunes. Puis, c'est pour... C'est vraiment pour défendre les droits des citoyens pendant les projets de loi. Ils vont avoir soit des manifestations, ils vont vraiment vouloir dire aux politiciens la voix du peuple. Donc ça, c'est vraiment nos deux volets qui sont offerts pendant la simulation parlementaire aussi.
Magnifique. Est-ce que, à titre de curiosité, on peut, en tant que membre du grand public, assister aux échanges parlementaires, aux débats qui auront lieu?
C'est tellement une bonne question, Alexis. Puis, je suis pas certaine de la réponse. Parce que nous, on attend toujours la confirmation du Parlement. Parce que l'année passée, les échanges, vraiment la simulation parlementaire, a lieu directement au Parlement.
Ah.
Cette année, on est en attente. Donc, vous voyez, pour le PFCNO, on n'y avait pas accès. Donc, on a été créatif. On a fait une chambre parlementaire à l'hôtel même. Donc, pour le PJFCB, si c'est à l'hôtel, c'est malheureusement, c'est pas accessible au grand public. Mais si c'est au Parlement, c'est une bonne question. Je suis pas certaine si c'est accessible au grand public à ce moment-là.
Ben, ce serait une dimension intéressante à ajouter. En tout cas, peut-être juste pour les parents et amis et peut-être des gens qui s'intéressent aussi à la politique, au mouvement citoyen. Bref, c'est à suivre. On va le découvrir plus tard. Est-ce que en attendant, vous avez un site web où on peut s'informer à propos de cette simulation qui aura lieu au retour des fêtes?
Oui, mais en fait, nous, on a directement sur la page du Conseil jeunesse. Donc, on va sur le site Internet du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Sur notre site Internet, on a un onglet événements. Et dans cet onglet-là, on a effectivement une page pour le Parlement jeunesse. Aussi, on est très actifs sur nos réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, on va toujours publier nos photos après les événements. On va tenir au courant vraiment le public des avancements, des volets, etc. Donc, vraiment, médias sociaux, Facebook, puis la page du Conseil Jeunesse.
Et sur les médias sociaux, on vous trouve en tapant Conseil Jeunesse francophone, Colombie-Britannique. Quels sont les mots-clés pour vous trouver sur les médias sociaux?
Oui, exactement. Donc, c'est le Conseil Jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. C'est un long titre, mais on y est.
Magnifique. Et ça se déroule encore une fois à Victoria. Alors, pour qu'on réalise bien, là, c'est quand même une chance. Là. Ça se reproduira pas l'année prochaine. Là. C'est pas tous les ans dans la même ville, n'est-ce pas?
Non, en fait, oui, c'est à chaque année. C'est vraiment un événement qui est annuel. Puis à chaque année, ça a lieu à Victoria.
Ah bon? D'accord. OK. Je croyais que ça se déplaçait dans la province. Donc, c'est bon. Alors, profitons de ce privilège d'être les hôtes de cette grande simulation, de ces grandes simulations, puisqu'il y en a plus d'une. Ici même à Victoria, bon, j'imagine que c'est parce que Victoria est la capitale de la province, le Parlement y siège, et autant que possible, vous essayez de tenir l'activité dans le Parlement. OK, je comprends le principe. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres infos vitales à signaler en vue de cette simulation qui se déroule début janvier?
Bien, autre information vitale, moi, ce que j'ai envie de dire, de lancer l'appel, en fait, on est toujours à la recherche de partenaires locaux. Donc, lors de notre ancienne, la simulation parlementaire qui vient d'avoir lieu il y a de cela quelques semaines, on a réussi à avoir des petits cadeaux de boutiques vraiment des boutiques locales. Oui. Donc, si on a encore des gens dans la communauté qui ont envie de donner des petits cadeaux pour nos invités, vraiment, faut pas hésiter à nous contacter. Nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vraiment propager les services et les produits locaux de Victoria, définitivement.
Magnifique. Est-ce que en contrepartie, vous leur faites une petite mention dans votre fascicule, ou est-ce qu'il y a une visibilité qui peut être procurée à ces gens qui vous fournissent des services ou des produits?
Oui, toujours. Donc, nous, on remet toujours un guide du participant à tout le monde. Donc, on parle ici de 115 participants, mais aussi de 20 bénévoles environ. Oui. Donc, le guide est remis à tout le monde, imprimé en couleur. Donc, évidemment, on met toujours le logo, on fait des remerciements. Donc, oui, il y a toujours possibilité d'ajouter une visibilité, effectivement, à l'échange de services.
Valérie Poulain, coordonnatrice de cette simulation parlementaire qui réunira des jeunes de 14 à 25 ans en janvier, ici même à Victoria, dans le cadre des activités du Parlement provincial jeunesse. C'est chapeauté par le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Un grand merci pour cet éclairage, et on pourra peut-être se reparler à quelques jours de l'événement pour rappeler aux auditeurs que ça se tient ici même dans notre ville.
Ben super, merci beaucoup Alexis.
Merci Valérie, à bientôt. Ainsi se termine cette édition du Débrief. Merci de l'avoir suivi à l'antenne de CILS FM 107,9. 9 degrés actuellement à Victoria. Les averses seront intermittentes en soirée et demain 25 novembre. Excellente soirée, le Débrief vous revient le lundi 28 novembre.